On est le 22 février 1856. À 7h du matin, à l'hôtel du ville de Lyon, le préfet et maire de Lyon, Claude Marius Weiss, se lève de son siège au conseil municipal avec ses notes dans la main, monte l'estrade et se met à droite du président de séance. Il ouvre avec son premier point. Le projet de création d'une promenade publique et d'un jardin des plantes à la ferme Tête d'Or. Vous avez bien entendu. Il dit... À mesure que la ville s'étend et que les habitations empiètent sur la campagne, la population voit disparaître ou s'éloigner les lieux où elle pouvait se procurer les plaisirs de la promenade. Nos quais, nos places publiques ne suffisent pas. La circulation y est trop serrée, le bruit y est trop grand, il y a trop de chaleur et de poussière en été, trop de boue en hiver. Alors personne au conseil municipal ne le contredit, hein, ce sont des faits qu'expose là le préfet Weiss. Son adjoint à la commission des finances, M. Fay, intervient et explique pourquoi il faut faire ça à l'emplacement de la Tête d'Or. Le lieu est admirablement choisi. Il est providentiel que l'industrie et la spéculation l'aient respecté jusqu'à présent et qu'il ne s'y trouve ainsi ni construction ni établissement industriel qui nous oblige à recourir à la voie toujours pénible et coûteuse de l'expropriation.
Bonjour à toutes et à tous, c'est JD. On a attaqué direct dans les méandres politiques qui ont amené la création du parc de la Tête d'Or en pleine révolution industrielle dans une ville de Lyon qui se transforme radicalement. C'est donc le deuxième épisode de cette série dédiée à l'histoire du parc de la Tête d'Or que je réalise en coproduction avec les archives de la ville de Lyon. On va voir dans cet épisode pourquoi le parc a été construit ici, sur une zone marécageuse inondée régulièrement, et surtout pourquoi ces marécages portaient, depuis des siècles, le fameux nom de Tête d'Or. Allez, c'est parti sur les traces de l'histoire.
Comment est mort Napoléon ?
Il est mort guillotiné, comme Bonaparte, comme tous les rois en fait.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ?
Les Japonais ?
Les Japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
Alors, on l'a vu, l'idée de la création du parc de la Tête d'Or, elle a été portée par l'équipe municipale de l'époque, avec à sa tête le préfet et maire Weiss, qui vient du coup de l'exposer en conseil municipal, et surtout d'expliquer qu'un spot comme celui de la Tête d'Or, c'est hyper rare. Et ouais, parce que, certes, c'est une grande parcelle marécageuse, mais c'est surtout un terrain quasi vierge, dans l'enceinte de la ville, et qui n'a pas encore attiré les vautours de l'immobilier de l'époque. Et ouais, parce qu'en fait, on est en plein Second Empire, Napoléon III libéralise à mort l'économie, et la spéculation immobilière, comme elle est justement appelée par M. Fay, qu'on a entendu tout à l'heure, l'adjoint à la commission des finances, bat son plein, surtout en cette période où les villes se métamorphosent. Dites-vous juste que pour créer la rue de l'Arrêt et le palais de la Bourse, il a fallu péter 289 maisons anciennes. Donc ça veut dire ciao les gens qui habitent dedans, déjà, parce que c'est pas eux qui vont être logés dans les immeubles qui vont être flambant neufs, mais bien sûr des personnes carrément plus aisées. Parenthèse fermée. Créer un parc à l'emplacement de la Tête d'Or, c'est parfait. C'est un terrain vierge qui appartient aux hospices civils de Lyon, en plus d'être dans la rive juste opposée du Rhône, dans un quartier qu'on appelle les Brotteaux, où on commence à lever pas mal de beaux immeubles aussi. À savoir à l'époque que les Brotteaux, c'est pas juste le quartier autour de l'ancienne gare comme on connaît aujourd'hui. En fait, c'est tout ce qui est rive gauche du Rhône et au nord de la Guillotière. Donc globalement, en fait, c'est tout le 6e et un gros bout du 3e. Donc rien ni personne ne semble s'opposer au projet du préfet Weiss. Et 2 heures plus tard, la séance du conseil municipal est levée. Dans la foulée, la ville rachète aux hospices le terrain de 117 hectares pour 1 250 000 francs. La construction du parc est lancée et sera confiée à un architecte paysagiste qui va faire ses preuves à Lyon, Denis Buller, avec son frère d'ailleurs, Eugène, et un ingénieur, Gustave Bonnet. Alors quand je dis un ingénieur, c'est The Ingénieur à Lyon. Hein. Gustave Bonnet, il faut le voir comme la truelle du préfet Weiss. Bon ok, c'est pas hyper sexy comme titre, mais j'ai pas trouvé mieux. Mais en fait, c'est, faut l'imaginer en fait comme le gars qui conduira la mise en œuvre de tous les grands chantiers lyonnais de l'époque. Que ce soit le percement de la rue de l'Arrêt, la construction du palais de la Bourse, et plus important encore, la création du quai et des digues le long du Rhône, qui sont un élément d'ailleurs essentiel pour la création du parc de la Tête d'Or. Alors je vais revenir en 1856, juste après que la ville de Lyon ait acheté le terrain pour construire le parc. Vous savez, c'est ce qu'on disait juste avant. Il n'y avait même pas eu en fait encore un coup de pioche, qui a eu un petit souci. En mai 1856, une crue immense submerge la ville. Et quand je dis la ville, c'est les villes en vrai, puisque on parle de la Guillotière, de Lyon, de Villeurbanne, de... En fait, le matin du 31 mai, les digues de la Tête d'Or et de Vaux-en-Velin, qui étaient assez sommaires, fallait voir des monticules de terre qui étaient un peu renforcés, cèdent sous la pression du débit monstrueux du Rhône. De son côté, la Saône, une fois n'est pas coutume, sort aussi de son lit. La moitié de la presqu'île est sous 1,50 m d'eau, quand la Guillotière se transforme en l'espace de quelques heures en une Atlantide. Le nord de Villeurbanne est aussi sous l'eau. Les habitants se réfugient sur leur toit tellement le niveau de la crue est haut. Les Bretons n'étaient pas nommés Bretons par hasard. Et les Lyonnais de la rive gauche en prennent conscience durement. Et oui, Bretons, en parler lyonnais, signifie une île d'une plaine alluviale, comprenait une bande de terre qui prend régulièrement l'eau. Et oui, en effet, cette crue immense de 1856 sera terrible puisqu'il y aura plus de 18 morts juste à la Guillotière. C'est un torrent qui bouillonne, ce sont des flots dévastateurs que dans son délire le Rhône vomit dans toutes ses fureurs. Lyon, cette grande ouvrière avec ses bras puissants et forts, au flot oppose sa barrière, hélas, inutiles efforts. Voyez les Bretons, les Charpennes et la cité Napoléon, la Guillotière, monts et plaines, le Rhône envahit tout au long. Honneur au sénateur intègre qui, des flots bravant la fureur, accourt vers vous d'un air allègre, pour consoler votre douleur. C'est de cette façon que le poète d'Aix-en-Provence, Marius Bourelli, décrit cette terrible crue du Rhône. Quant au sénateur intègre dont il parle, c'est du préfet Merveis dont il parle, puisque oui, niveau cumul des mandats, il était pas mal notre petit Claude Marius. Ceci dit, c'est aussi grâce ou à cause de cette concentration des pouvoirs que Lyon sera métamorphosé de cette façon. Ce brave poète Marius Bourelli publiera son long poème, parce que j'en ai lu qu'une partie, dans un petit livret destiné à être vendu et dont les fonds serviront au profit des victimes de l'inondation. Plutôt sympa. Comme quoi, avec les cagnottes litchi, on n'a rien inventé. Le préfet Weiss débloquera d'ailleurs une grande enveloppe budgétaire pour reconstruire et reloger tous les Lyonnais naufragés. Et Napoléon III lui-même viendra à Lyon le lendemain des crues. C'est la première ville dans laquelle il ira. Non, parce que je crois qu'il y a eu la première ville de la vallée du Rhône, puisqu'en fait il y a eu aussi la Loire qui a débordé, donc il est, en venant de Paris, il est forcément passé par la Loire en premier. Mais il est venu à Lyon, et en fait, pour constater les dégâts, et surtout montrer aux Lyonnais et aux habitants des villes aux alentours son soutien. Il débloquera d'ailleurs lui aussi une enveloppe pour aider Lyon et toutes les villes touchées, parce qu'elles sont nombreuses, le long du Rhône et de la Saône. Il y a Dijon, Valence, Avignon, Tarascon, Arles, toute la Camargue, en vrai, toutes les villes de bord, de rivière ou de fleuve seront durement touchées. L'aménagement du parc prend du coup d'autant plus d'importance que tous les lieux de loisirs, on va dire les tripots, cabarets, maisons closes, en fait ils étaient en grande partie dans ce grand quartier des Bretons, sur la rive gauche du Rhône, à l'orée de la ville de Lyon et donc du coup loin des yeux de la police. Avec la crue exceptionnelle qui a dévasté du coup les Bretons, il n'y a plus rien de ces lieux de loisirs. Donc la municipalité se dit que c'est l'occasion rêvée de proposer des loisirs plus sains à la population lyonnaise. Et c'est pas pour rien que je vous parle de cette catastrophe, de cette inondation immense, c'est parce que le chantier à peine commencé se voit ajouter obligatoirement la construction d'une grande digue pour préserver Lyon de l'impétueux fleuve. Évidemment pour protéger le parc lui-même aussi, au passage. Parce qu'à la base, en fait, cet emplacement de la Tête d'Or, on n'en a rien fait parce que c'est un terrain composé de plusieurs îlots que recouvrait régulièrement le Rhône. Principe des Bretons. Trois îlots exactement, l'île Lambert, c'était le nom des propriétaires avant les hospices, qui étaient des marchands au 16e-17e siècle. Il y avait une autre île qui s'appelait le Bois de la Tête d'Or et une dernière, une grande île Chevaline. Du coup, pour canaliser le Rhône, on construit la digue de Grand Camp, qui fait qu'on a un grand espace immergé, maintenant cadenassé, entre une large digue qui est à l'emplacement de la Cité Internationale. La Cité Internationale est construite dessus, carrément, et le boulevard du Nord, aujourd'hui le boulevard des Belges. À l'intérieur, l'architecte Buller prévoit d'y installer terrassements, semi-plantations, clôtures, treillages et met en place d'immenses travaux de drainage, d'assèchement. On rehausse le terrain d'un mètre sur plus de 6 hectares pour y mettre le jardin botanique dessus. Et pour finaliser tout ça, au milieu, on y creuse un grand lac sur 12 hectares qu'on remplit avec l'eau du Rhône. Denis Buller avait promis qu'il ne dépasserait pas le budget de 600 000 francs qu'on lui avait débloqué pour l'aménagement du parc. Vous imaginez bien qu'avec l'inondation, les renforcements, tous les trucs qu'il fallait construire à côté, il a pété le budget. Et j'ai bien fait crépiter le micro, je suis désolé. Alors, on a vu que le Rhône, quand il s'énerve, il rigole pas. Et c'est pour ça que maintenant, on a des multiples digues en amont qui permettent de le contrôler. Mais la légende de la mâche-croûte, ce dragon du Rhône qui dormirait sous le pont de la Guillotière, ça vient de là. C'est des croyances populaires qui se sont construites à force d'inondations plus ou moins violentes qui détruisaient les quartiers, les ponts, etc. Alors, imaginez ça à l'époque, on est au XVIIe siècle. Une soirée brumeuse et froide, une digue qui cède, une méchante vague qui d'un coup arrive sur un pont qui dévaste tout sur son passage. Il n'en faut pas plus pour imaginer qu'il y a une grosse bestiole dans le Rhône. À un moment, faut se dire les choses. Quand on comprend pas les trucs, on se dit que c'est chelou et qu'il y a un truc qui nous en veut. Donc c'est normal, cette histoire de la mâche-croûte. Mais on va rester dans ce registre des légendes qui font peur un peu. Et on va quitter l'allée principale qui mène aux eaux, qu'on aperçoit sur notre droite, là, juste là, parce qu'on a, on commence à s'y approcher. Et on va s'aventurer en fait dans la contre-allée boisée qui longe le lac pour se placer au bord du lac, justement. Et oui, on arrive dans ce qu'on appelle le bois de la tête d'or. Et c'est là qu'on va parler des légendes de la tête d'or. La fameuse légende de la tête d'or. Alors, les enfants, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Non, c'est faux. C'est parce que c'est la peur d'Halloween pendant que j'enregistre et du coup, je me suis un peu laissé emporter. Non, en vrai, ce fameux nom de tête d'or viendrait du trésor des Templiers que ces soldats de Dieu auraient ramené du Moyen-Orient. En plus des moultes pièces d'or, bijoux et richesses nombreuses qu'ils auraient entreposées en partie à l'île Barbe, non loin, sur la Saône, les Templiers auraient ramené une immense tête du Christ en or. Oui, messieurs, dames, une tête en or qu'ils auraient enterrée ici, sous nos pieds, dans le parc. Depuis, sont nombreux les chasseurs de trésors à être venus arpenter les marécages des Brotteaux et tenter leur chance avec pelles et pioches pour dénicher cette tête d'or. Une voyance sera même engagée en 1885 par la municipalité pour le trouver, ce trésor, sans succès. Si bien que cette parcelle, très tôt dans l'histoire de la ville, s'appellera la Tête d'Or, et toute installation qui s'y installera prendra ce nom, comme la ferme qui était là à l'époque et qui s'appelait Ferme de la Tête d'Or. Et cette légende traverse les siècles et reste tenace jusqu'en 1856, en pleine construction du parc. On revient à l'époque où on était juste avant. Si bien que les double billes, Bonnet et Buller, ils sont pas fous. Ils ont besoin de main-d'œuvre et pour motiver l'embauche, ils auraient dit aux ouvriers postulants que s'ils tombaient sur le trésor, ils pourraient le garder pour eux. Oh bah t'inquiète que ça en a motivé de l'ouvrier désespéré. Et c'est pas ce qu'il manquait. Bah ouais, je vais devoir faire un petit détour par la situation des canuts de l'époque, mais la période dorée de la soierie lyonnaise est révolue. Bon nombre de canuts sont en déj de travail et sont donc au bistrot, à ressasser le bon temps des révoltes de 1831-1834. Et ça, Weiss, il le sait très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait percer la rue de la République. N'oublions pas que la rue de la Raie relie Bellecour à l'hôtel de ville. Bellecour étant la grande place où se réunissaient les troupes militaires, une sorte de champ de Mars, et l'hôtel de ville étant le siège du pouvoir municipal qui était donc la cible numéro 1 lors des révoltes. Donc avec une grande artère comme cette toute neuve rue de la Raie, plus de barricades possibles, et surtout, c'est une autoroute pour les troupes qui peuvent arriver en deux-deux au secours du maire. Bref, Weiss, Bonnet et Buller jouent sur la légende de la tête d'or et les canuts qui sont sans le sou sont bien contents de pouvoir bosser et de ne plus faire la manche pour manger, voire en plus de ça, rêvent de tomber sur un trésor immense. Même si visiblement les canuts sont plus doués avec une navette qu'avec une pelle, puisqu'on a un gars de l'époque qui témoignera, Il n'y a personne de maladroit comme les ouvriers de soierie pour les travaux. En octobre 1857, plus de 3000 d'entre eux étaient déjà occupés à ces travaux et déjà plus de 500 avaient dû rentrer à l'hôpital. La plupart de ces malheureux étaient blessés ou avaient attrapé des hernies en glissant sur les plateaux couverts de vases. Et c'est là où la deuxième légende prend place. Parce que oui, il n'y a pas qu'une légende à tête d'or, et il y en a deux. Il paraîtrait qu'en creusant le grand lac du parc, des canuts seraient tombés sur la grande tête du Christ en or. Mais ils étaient plusieurs à creuser, hein. On rappelle, c'était quand même un lac de plusieurs hectares. Et du coup, les voilà, assez écharpés à se taper dessus pour savoir qui va hériter du trésor. Et devant tant de haine, tant de cupidité, et si peu de fraternité entre les canuts, la tête en or se serait mise à pleurer, et à pleurer des larmes immenses qui auraient créé le grand lac de la tête d'or. Il paraîtrait même que si jamais vous passez les soirs de brouillard dans les allées tortueuses du parc, on entend encore ces lamentations de tristesse. Non, ça c'est faux, ça c'est moi qui le rajoute. Mais en vrai, je suis sûr que c'est comme ça que les légendes naissent. Il y a un mec qui se met la chauve, qui essaye d'embellir un peu une histoire, et puis à la fin, ça devient un truc de fou qui se passe de génération en génération. Eh, si dans 100 ans, cette légende-là, des tortueuses du parc, nanana, les voix dans les sous-bois, blablabla, la tristesse, si jamais... Dans 100 ans, vous saurez d'où ça vient. Ah bah non, vous saurez pas d'où ça vient. Il faut pas dire que ça vient de moi, sinon ça peut pas devenir une légende.
Ben ça y est, le parc de la tête d'or il est sorti de terre et des eaux marécageuses du Rhône. Les Lyonnais et les Lyonnaises vont enfin pouvoir profiter de ces grandes étendues verdoyantes à quelques pas du centre-ville seulement. Cependant, bah que ce soit Gustave Bonnet, l'architecte du parc, ou le maire-préfet Claude-Marius Weiss, ils ont des plans beaucoup plus larges pour ce parc, et notamment par rapport aux grandes serres qu'ils construisent aux confins du parc du côté de Villeurbanne. Mais pour voir le côté botanique du parc, on va aller à la rencontre de sa directrice. Et ça, et bah c'est au prochain épisode que ça se passe. Merci d'avoir écouté cet épisode, il a été réalisé en coproduction avec les archives de la ville de Lyon. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de streaming, en mettez le plus possible, j'avoue ça fait plaisir, ça permet de faire connaître le podcast à plus de monde. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est hello.jd, hello comme bonjour en anglais, hein. Hello. Je fais des petites vidéos sur l'histoire de Lyon, je partage plein de trucs, on rigole bien. En tout cas, merci de votre écoute et à très vite pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire.